Bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir convié à cette superbe manifestation. J'ai apporté un petit dossier de texte. Je ne sais pas si il y a assez d'exemplaires pour chacun des membres et des participants à ce colloque. Et comme Jean-Philippe Genet l'a rappelé tout à l'heure, quand on cherche les producteurs d'idéologie de cette époque, cette idéologie contractualiste, c'est plutôt vers les milieux universitaires, vers les milieux nobiliaires, plutôt de la fin du Moyen-Âge d'ailleurs, que l'on se tourne. Et en règle générale, donc, la paysannerie est plutôt ignorée, sauf lors des révoltes, ces grandes révoltes donc, des 14e et 15e siècles, pendant lesquelles les auteurs de l'époque, finalement, accordent un peu plus d'importance à la parole paysanne, surtout du reste pour la condamner. Et il en ressort pour nous, historiens, l'idée que l'expression d'une conscience politique paysanne s'accompagne nécessairement de violences sociales et qu'en dehors de ces formes de violences sociales, de colère et de fureur destructrice, cette catégorie de la population est donc dépourvue de conscience politique. Alors l'exemple que je vais présenter aujourd'hui va à l'encontre de ces a priori. Il nous transporte au sein de ce beau XIIIe siècle, pour reprendre l'expression de Jacques Le Goff, et il nous met face à des représentants d'une paysannerie, dont une série de travaux vient de montrer toute l'originalité. Il s'agit de la paysannerie gasconne. Alors le texte qui exprime le mieux cette politisation de la paysannerie gasconne et une conception contractualiste que l'on y rencontre, c'est le procès-verbal d'une enquête royale menée en février 1237 en Bordelais, diligentée par le roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, Henri III. Bon, c'est une enquête dont j'ai déjà eu l'occasion de parler en d'autres occasions. Elle a été diligentée à propos d'exactions sur des exactions commises par les baillis du roi-duc et à l'encontre donc des paysans et de la population locale. C'est une enquête qui, ce procès-verbal, donc résulte de la déposition d'à peu près 120 représentants d'une trentaine de paroisses rurales de cette petite région qu'on appelle l'Entre-deux-Mers, qui est située donc aux portes de Bordeaux, entre deux fleuves que sont la Garonne et la Dordogne, tel que vous pouvez le voir sur la carte. Dépositions donc qui ont été enregistrées par les deux commissaires du roi, et dépositions qui ont été reproduites, non pas telles quelles, comme le voudrait la procédure romano-canonique, mais plutôt digérées, mises en forme, par les enquêteurs, selon justement la forme des enquêtes normandes. Le procès-verbal détaille paroisse par paroisse des exactions qui ont été commises par les prévôts, par les sénéchaux du roi, à l'encontre des habitants de la région. Mais il présente aussi, ce procès-verbal, les franchises des habitants de la région, dont, justement, j'ai présenté ici quelques-uns des extraits. Franchises, puisque Henri III, le roi, avait demandé à ses commissaires de recueillir des informations sur les franchises dont se prévalaient les habitants. Et ce faisant, le texte fournit la version écrite la plus ancienne des coutumes et des franchises d'une communauté d'habitants de cette région, et ce qui est d'autant plus intéressant que les habitants qui s'en prévalent ne sont pas des bourgeois, mais des paysans d'une sorte de confédération villageoise, comme on en connaît d'autres en Picardie, telles que les a bien étudiées Robert Fossier, dans les Pyrénées. Je fais référence là aux travaux du regretté Jean-Pierre Barraquet ou aussi de Benoît Cœursante, ou encore en Gascogne, puisqu'on trouve ce type de fédération villageoise dans le sud du diocèse de Dax, dans les pays que l'on appelle la Marraine, le Marensin, le pays de Gosse ou de Seignanx. Alors pour faire bref, je verrai en trois points comment, un, est formulé ce contrat politique, deux, ce que l'on sait des individus qui mettent en avant un tel schéma, et trois, sur quoi il paraît fondé. Alors ce contrat politique... Ce contrat politique, j'en ai fait un petit schéma, schéma donc que l'on peut établir à partir donc de quelques-uns des articles dont vous avez la copie sur le petit dossier, articles donc qui correspondent aux chapitres 8, 9, 10 et 11. Quatre articles donc qui établissent voilà, des privilèges et des franchises dont se prévalent ces habitants et qui, ce faisant, donc témoignent d'une forme de pouvoir, d'origine du pouvoir, en tout cas contractualiste. Alors, ce qui marque effectivement la vision de l'origine du pouvoir du roi, ou du roi-duc en tout cas, c'est ce verbe, le verbe concedere, qui est conjugué à la troisième personne du parfait, et vous pouvez le voir donc dans les articles, hein, les passages ont été surlignés, mis en gras, concederunt sibi, qui revient à peu près quatre fois. Le problème étant de savoir qui, puisqu'on cherche le sujet qui concède au roi, et c'est un petit peu plus haut qu'il faut trouver le sujet de ce verbe, puisque l'on voit qu'il s'agit donc des prélats et des sujets, et plus bas encore, donc on retrouve l'idée que, en fait, il ne s'agit plus de sujets, mais des jurés. Les jurés, c'est-à-dire en fait ceux qui représentent les paroisses dans le cadre de cette enquête. Donc on a l'idée que Condé-Quédéré exprime l'idée que justement ce sont les hommes qui ont cédé au comte, au duc, donc au roi-duc, ses droits de justice, celui d'avoir des cautions, le droit de demander des hébergements et le droit de convoquer au service militaire ou de suivre son prévôt. Et là, donc, il y a cette idée très claire qui se dégage, que le pouvoir du roi sur les sujets vient d'eux-mêmes, qu'il procède par conséquent d'une forme de délégation populaire. On a un renversement de la source et de la légitimité du pouvoir princier qui trahit, là, on le voit bien, la forme d'une une conscience, d'une forme de contrat entre le souverain et les sujets. Alors un tel schéma est un renversement assez radical des représentations en cours à l'époque et qui sont donc celles aussi des historiens, puisqu'en règle générale, c'est le seigneur qui concède pouvoir et franchise à ses sujets et non l'inverse. Mais un tel schéma descendant n'est pas absent de la conscience de ces gens-là, puisque justement, on le voit donc dans le même article, l'article 10, et celle que j'ai exprimée là sur la suite du schéma. Ce schéma descendant, il l'applique donc au roi lorsque celui-ci donc, est réputé avoir concédé des vicariats à un certain nombre de seigneuries, qui sont donc des seigneuries laïques, bon, Benoges, La Traîne, Vers, Montferrand, etc., je ne les cite pas, ainsi que la seigneurie monastique de l'abbaye de la Somme Majeure. Donc on a pour le coup, vous le voyez bien, une relation à trois pôles. Les sujets à la base, le roi au centre en distributeur de pouvoir et in fine, en bout de chaîne, des seigneuries. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce schéma de distribution du pouvoir, Dieu n'est nulle part, l'Église n'apparaît pas, c'est une sécularisation très, très intéressante à constater, puisqu'on se demande si elle est circonstancielle, c'est-à-dire si elle est liée aux contestations religieuses de cette époque qui remettent en cause l'Église romaine, ou si au contraire, elle est beaucoup plus ancienne que ça. En tout cas, cette allusion, l'allusion des concessions de vicariat, est intéressante aussi parce qu'elle permet de dater dans la mémoire de ces gens-là cet acte fondateur. La seigneurie la plus importante de ce groupe, qui est la seigneurie de Benoches, c'est une seigneurie qui est bien attestée dès le milieu du XIe siècle. Les autres, donc, on commence à les voir apparaître soit à la fin du XIe, soit au XIIe siècle. Et donc, aux yeux de ces gens-là, finalement, les concessions de vicariat par le roi à ces seigneurs donc, remontent au moins au milieu du XIe siècle, et on est là transporté dans ce climat et dans ce contexte, peut-être de paix de Dieu, d'affaires de paix et de foi, puisque ce mouvement de paix est attesté explicitement dans le document. Mais la mémoire de ces gens-là remonte plus loin encore, puisque on se rend compte, ça c'est dans le chapitre 13, qu'ils placent l'origine de leur franchise dans un contexte plus ancien, dans un contexte carolingien. Ils invoquent en effet le fait que ces franchises leur ont été octroyées ou ont été octroyées à leurs ancêtres par Charlemagne dans sa lutte contre les Sarrasins, qui a accordé donc ces franchises à ces hommes qui l'avaient accompagné gratuitement, contrairement donc aux chevaliers, aux milites, et en remerciement donc de ce service gratuit, il leur a accordé non seulement des terres, mais aussi donc des franchises. Alors là, c'est un thème qui est extrêmement intéressant, puisqu'on se rend compte finalement que cette catégorie de la population est très sensible donc au thème en vogue de la culture profane de l'époque, c'est-à-dire donc à la geste carolingienne. On en a des allusions, bien sûr, dans le pseudo-Turpin Saint-Onger, qui sont des textes autour milieu XIIe siècle, début XIIIe siècle, et qui justement mettent en scène des combats de Charlemagne et de ses preux dans le Bordelais et dans cette région. Question donc maintenant, c'est qui porte ce type de représentation? Deuxième point. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer clairement quelles sont les personnes dans cette enquête-là qui promeuvent de telles représentations. Et la forme en incombe à la forme. La faute en incombe, pardon, à la forme du procès-verbal, qui, je le disais tout à l'heure, est plus fidèle à la forme de l'enquête normande que de la procédure romano-canonique, car le contenu de ces dépositions a été digéré, réécrit par les deux commissaires royaux. Ces deux commissaires royaux portent une part de responsabilité, de fait, mais ils sont assez étrangers au contexte local et à la mémoire locale, parce qu'il s'agit pour l'un d'un abbé cistercien saint-angé, pour l'autre donc d'un petit noble anglais. Mais puisque l'on a l'identité de ces 120 jurés qui ont déposé, et qu'on peut réaliser une petite enquête prosopographique par le croisement avec les sources contemporaines, on arrive malgré tout à établir donc un étalonnage d'une douzaine d'individus sur lesquels on a des informations par ailleurs, et donc à repérer une forme de profil social pour ces émetteurs donc de ce type de représentation. Ces représentants des paroisses du domaine ducal appartiennent en effet à un groupe social bien particulier, celui des élites non nobles, que les sources anglaises désignent préférentiellement par le vocable de prud'homme, probiumines. Et ceci, d'ailleurs, se désigne de préférence par un autre terme, par d'autres termes. On le voit dans l'enquête, ils se présentent tantôt comme étant des prud'hommes, tantôt comme étant des bons hommes. Mais on les voit également revendiquer donc, l'appellation de francs, parce qu'ils revendiquent des franchises. Plus au sud, ce même groupe social est dans la Gascogne, le Dacquois, le Bazadais également, plutôt reconnu sous l'acception de voisins. Ce sont de gros paysans qui sont à la fois alletiers, tenanciers, et qui correspondent donc à ce type d'élite paysanne, même type d'élite paysanne que Benoît Cursant a bien étudié, sous l'appellation d'homme des casos, sous l'appellation de pagesse, ou encore de qui se reconnaissent dans les chartes de franchise sous l'appellation de seigneur de maison. Ce groupe social représente effectivement une force politique, une force sociale, mais surtout une force politique, qui est assez consistante pour, en face desquelles, justement, les seigneurs, y compris d'ailleurs les pouvoirs comtaux, ne sont pas toujours à leur avantage. Alors, pour ce que j'ai pu voir de leurs prérogatives, à travers, d'une part, cette enquête, et à travers, d'autre part, les chartes de coutume, les mandements qui leur sont adressés par la chancellerie du roi d'Angleterre, on peut établir, vis-à-vis de ces prud'hommes, deux niveaux de responsabilité. Vous avez, d'une part, et je l'ai là schématisé en rond, des responsabilités vis-à-vis de leurs coparoissiens, puisqu'ils réalisent donc des arbitrages, des compositions. D'autre part, ils contrôlent l'accès des padouins, c'est-à-dire en fait des incultes, des vacants, à la manière d'ailleurs d'un syndicat de copropriétaires. C'est un point sur lequel Benoît Cursant a beaucoup travaillé. Ils participent de ces prêts à la gestion du système ecclésial, tout au moins des dîmes, parce que pour le patronage des églises, là, les choses sont beaucoup moins claires. Ils ont des responsabilités vis-à-vis de la sécurité collective, et là on le voit bien dans un des articles là, que j'ai distribué, puisqu'ils veillent au respect de la mobilisation collective par le cri d'appel qui, dans cette région, donc, est le cri de Biafora. Et puis, par rapport donc, à ce premier niveau de responsabilité, ils exercent un second niveau de responsabilité, un rôle de répartiteur des exigences ducales vis-à-vis de leurs coparoissiens. Et là, c'est ce que j'ai représenté sous forme de triangle, je suis désolé, là, ça apparaît peut-être un peu moins bien. Vous avez d'une part la répartition donc, des hébergements, la répartition des semences à l'ost, donc au service militaire, et d'autre part la répartition des caisses ou des tailles. Donc en fait, c'est un pot direct hein, qui, dans certaines de régions, alors pour l'entre-deux-mers, la somme est estimée à cette époque à une quarantaine de livres, un peu plus bas, c'est une vingtaine de livres, et puis dans le Dacquois, c'est ces mêmes caisses, donc non pas de montant à cette époque encore fixé, mais leur levée se fait toujours au même moment, ce sont des caisses qui sont levées entre les fêtes de Saint-Michel et de Toussaint. Et on voit bien, hein, à travers les textes sur lesquels on peut travailler, que ce sont donc les prud'hommes qui assurent en interne la répartition de ces exigences ducales auprès donc de leurs coparoissiens. Ce système de médiation traditionnelle des exigences ducales dans les campagnes du domal est mis à mal, justement, par deux facteurs, dont la conjonction crée une sorte de crise systémique, que le procès-verbal de l'enquête, justement, documente assez bien. Premier type de facteur qui met à mal donc, ce système de médiation traditionnelle, ce sont des facteurs qui sont devenus à cette époque structurels. Vous avez surtout donc, cette mise en place d'un nouveau système de médiation de l'autorité ducale qui, lui, est basé sur les prévôts dont les ressorts territoriaux sont taillés dans le domaine ducal. Et là, on a un effet, hein, un effet purement local, mais très intéressant pour suivre donc, les effets locaux de la genèse médiévale de l'État moderne. Bon. Cette prévôté, justement, de l'entre-deux-mers, eh bien, elle est attestée, c'est une des toutes premières prévôtés rurales qui est attestée dans la documentation, dans les années 1210. Même moment, on repère donc une autre prévôté rurale dans la région des Landes du Bordelais, dans ces années 1210-1220. C'est un vrai problème pour les élites locales, puisque, et ça, les plaintes qui sont adressées au roi, plaintes qui donnent lieu donc à l'enquête dont je viens de parler, mais plaintes que l'on voit également se renouveler lors, par exemple, de la grande révolte des Gascons contre le lieutenant du roi de Simon de Montfort en 1252, plaintes qui sont adressées au Parlement de Westminster, et l'on voit bien que, finalement, les prévôts, à travers ces plaintes, mettent à mal la position sociale des prud'hommes. D'une part, parce que il y a ces exigences, nouvelles exigences relayées par les prévôts, qui sont de plus en plus fréquentes. Ces prévôts, donc, multiplient les exigences d'hébergement, des levées diverses, ce qui fait que les répartiteurs traditionnels se trouvent être placés en position délicate vis-à-vis de leurs coparoissiens. D'autre part, ces prévôts ont la capacité à interférer sur les attributions traditionnelles des élites locales, puisque leur domaine de compétence recouvre justement le service militaire, les levées de caisses, ainsi que des hébergements. Et puis, ces prévôts ont la capacité de ponctionner directement les prud'hommes, qui sont considérés à l'instar des autres contributeurs, et molestés, comme les autres, en cas de refus. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont à l'époque devenus structurels. Mais il y a aussi un second type de facteurs qui mettent à mal la médiation traditionnelle de ces élites, c'est-à-dire ce sont des facteurs conjoncturels. Il se trouve qu'en cas de mauvaise récolte, en cas de crise frumentaire, par un effet mécanique, donc le nombre de paroissiens va diminuer, car, et là le procès-verbal de l'enquête le montre assez bien et plutôt même éloquemment, il y a une émigration. Émigration donc qui peut avoir des phases de plus ou moins grande intensité, mais là on sent effectivement que dans les années qui ont précédé le déclenchement de cette enquête, il y a eu donc une émigration assez forte, d'une part vers les villes, d'autre part vers l'Espagne, et que ce qui a motivé cette émigration, c'était, on le dit pas, mais c'est sous-entendu l'attrait qu'exercent les villes par les franchises, la première de celles-ci, sont Bordeaux et Bayonne, et puis il y a d'autre part les mauvaises récoltes, crises frumentaires. Il se trouve que l'année d'avant, et là il y a une concomitance qui évidemment n'est pas fortuite, grande crise frumentaire en 1235, qui est attestée non seulement dans la documentation locale, mais aussi dans le chroniqueur comme Guillaume de Nangis, qui atteste donc d'une grande sécheresse et des difficultés de la population. Et vous imaginez bien que face à une masse de contribuables qui va diminuant, alors que la masse fiscale, le poids à assurer donc est plus lourd par ailleurs, le travail des répartiteurs traditionnels se trouve être évidemment extrêmement compliqué. Alors, face à ces difficultés qui remettent en cause leurs attributions traditionnelles et qui sapent donc les fondements de leur domination locale, eh bien, on a des prud'hommes qui, en fait, ne restent pas sans réaction. Ces réactions, on peut distinguer, en s'appuyant sur le cadre justement de l'entre-deux-mers ducal, quatre niveaux de réaction. Et c'est ce qui apparaît là, donc au bas du schéma. Alors les premières réactions à tester, ce sont donc de la part de ceux qui se présentent comme étant les hommes francs de l'entre-deux-mers, ce sont des demandes de confirmation de leur franchise, qui sont, et c'est très intéressant, jointes à des appels au roi, pour faire revenir les émigrants. Donc là, les deux phénomènes sont parfaitement bien assimilés. Second niveau donc de réaction, ce sont les plaintes contre les prévôts et baillis du roi qui sont accusés de multiplier les extorsions, bon, sous couvert d'hébergement, de levée de caisses, etc. Et enfin, il y a ce que le procès-verbal montre bien, l'élaboration d'un argumentaire dont on a vu justement les principaux éléments pour légitimer l'idée que le pouvoir du roi procède de ces élites paysannes. Alors cet argumentaire mobilise également des thèmes culturels qui soulignent l'existence d'une culture politique chez ces élites roturières, puisqu'il est fait référence, je le disais tout à l'heure, donc à l'origine réputée carolingienne de leur franchise, mais aussi à l'idéologie de la paix de Dieu, pour ce qui concerne donc l'origine des vicarias. Donc là, il y a une sensibilité aux thèmes culturels qui est en soi très intéressante, puisque ce sont des gens qui, de fait, ne sont pas dépourvus de ce capital culturel dont parlait Pierre Bourdieu. L'existence de représentations assez élaborées chez cette catégorie de la population, somme toute, n'est pas si incongrue que cela, puisque les études menées ces dernières années ont montré qu'on a affaire à des gens qui sont plus instruits qu'on ne le croit, parmi lesquels donc il y a des confrères. On a repéré au moins une très grande confrérie rurale, parmi lesquelles donc sont mentionnés quelques-uns de ces prud'hommes qui sont parmi les représentants des paroisses à l'occasion de cette enquête. On sait qu'il y a parmi eux également des membres de quelques-unes des familles sacerdotales qui exercent ou qui ont exercé un contrôle sur les églises locales et qui continuent en plein milieu du XIIIe siècle donc envoyer quelques-uns de leurs jetons donc dans la cléricature pour devenir prêtre de paroisse. Et on a repéré également quelques écoles rurales, puisqu'il faut bien que parmi ces prêtres, effectivement, l'évêque puisse nommer des gens instruits. En réalité, un tel schéma contractualiste n'émerge pas spontanément et il n'émerge pas isolément. On voit que le cas nous le montre bien, et qu'il est conçu en liaison avec une crise qui touche les répartiteurs traditionnels, les exigences ducales. Dernière interrogation, et là il va falloir que j'aille vite, sur quoi cette vision contractualiste du pouvoir royal est-elle fondée ? Alors là aussi on a beaucoup d'interrogations et rien dans les documents de cette époque permet de voir le cheminement de telle représentation, de tel schéma de pensée. On peut penser bien sûr aux résultats de prêches de prédicateurs, qui connaissent les exemples de l'Ancien Testament ou des prédicateurs qui connaissent l'Alex Regia du Corpus Juris. En même temps, on sait que ces gens ne peuvent pas méconnaître ce qui se passe à l'extérieur, notamment au sein de deux régions d'Europe avec lesquelles cette partie de Gascogne entretient des liens étroits, que sont l'Angleterre et la Navarre. Pour le dire vite, l'Angleterre, donc, vous connaissez, c'est cette union dynastique qui existe depuis 1154 et au nom de laquelle donc le roi d'Angleterre est duc d'Aquitaine, mais au nom de laquelle aussi donc des échanges commerciaux extrêmement étroits sont mobilisés, sont entretenus, et on sait que la bourgeoisie des villes de cette époque donc négocie avec les Anglais et vers les marchés anglais, en particulier du vin. Et voilà, on sait que l'Angleterre de cette époque est un véritable laboratoire politique où avec les multiples copies de la Magna Carta, l'émergence d'une forme d'opinion publique dans laquelle la société des comtés s'élargit, aux bourgeois, mais aussi à la paysannerie aisée, David Carpenter l'a bien montré. Bon, première piste. Seconde piste, c'est la Navarre. C'est ce qui se passe avec la Navarre. La Gascogne, effectivement, est en contact très étroit avec la Navarre. Et il se trouve que quelques petites années plus tôt, en 1234, vous le savez, le changement dynastique qui est survenu en Navarre avec l'avènement donc de Thibaut IV de Champagne a provoqué l'émergence d'un modèle de monarchie pactiste dans lequel le roi, tel que le précise le Fuero Antiguo, est choisi par le peuple. Donc il y a, d'une certaine manière, un air du temps, des expériences politiques qui sont menées aux portes de la Gascogne ou en Angleterre, qui en fait peuvent avoir porté dans les campagnes du Bordelais des idées contractualistes. Mais, à y regarder de près, on peut également trouver dans ces idées des fondements plus tangibles. Et c'est ce qui apparaîtra dans le dernier des textes dont je vais parler, qui est donc le dernier du dossier, et qui est en fait donc une concession accordée par le prince Édouard, le fils du roi Henri III, en 1255, accordée à une petite communauté d'habitants de l'est du Bazadais qui s'appelle Cocumont. Alors, on est en 1255, on est à la fin d'une période troublée, c'est donc la fin de la révolte des Gascons contre le gouvernement de Simon de Montfort. Un texte qui s'adresse à des hommes du cru, des éleveurs qui ont aussi des terres, qui contrôlent l'accès aux incultes et qui ont certainement demandé au roi ou à son fils le droit de se regrouper à l'abri d'une enceinte et d'avoir un marché. Et là, donc, Édouard a répondu favorablement. Mais la partie du texte qui est la plus intéressante, c'est cette allusion à un transfert de justice entre les hommes de Cocumont et le prince. Le passage que j'ai mis en gras, c'est « Toute forme de justice étant retenue partout, par nous, telle qu'ils nous l'ont concédée, ab eisdem conquessa ». Alors, au regard de ce que nous enseigne le procès... Je vais finir, alors. Le texte, donc, montre qu'il y a des transferts de juridiction qui sont possibles. Et on a affaire, effectivement, donc, à des... à un groupe d'individus qui disposent d'une seigneurie domestique, d'un droit à la violence légale, qui de fait donc sont en mesure d'opérer de tels transferts vis-à-vis du roi ou de son représentant. Et par conséquent, cela donne finalement du sens à ce que les représentants de ce groupe de paroisses faisaient mettre par écrit dans le cadre de cette enquête. Mais, et là, j'en conclus, et je dirais en dernier mot, que pour en revenir à ce procès-verbal et à cette image, ce n'est pas seulement que une fraction des pouvoirs galliens qui paraît avoir été donc transférée. C'est bien l'exemple de Cocumont nous montre cela. On a transféré un droit de justice, point barre. En revanche, ce que nous montre donc le procès-verbal de cette enquête, c'est que ce n'est pas que le droit de justice qui a été concédé, mais c'est aussi la capacité à exiger des hébergements, la capacité à lever également une armée. Bref, ces gens-là, donc peut-être sur la base de quelques fondements légaux, sur lesquels donc on n'a évidemment aucune information, se représentent que l'ensemble des attributions régaliennes du roi provient de délégations populaires. Merci de votre attention.